Bonjour et bienvenue sur le plateau de Studio Zef. Et comme chaque mois, Du Vent dans les Pages vous propose dans l'ordre les idées lectures d'Anne et Catherine, la chronique énervée d'Alice et une petite BD pour la route. Catherine n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons dans le studio Anne. Bonjour.
Bonjour Véro.
Ça va ?
Ça va.
Tu vas nous présenter deux bouquins.
Oui, hein, à la suite.
À la suite, voilà, dans la première partie de l'émission.
Je vais être
épuisée. Complètement. Bonjour Alice.
Bonjour Véro.
Alors, les auditeurs de Studio Zef te connaissent puisque tu prépares donc deux émissions.
Voilà.
Ensemble d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Voilà.
Aujourd'hui, alors, tu es là pour présenter ton projet qui n'est plus, plus un projet maintenant.
Qui se concrétise.
Hein, ça se concrétise.
Bigrement, oui, tout à fait, qui est sous presse là.
Voilà, exactement. Ouais. On parlera de contre-champ tout à l'heure. Très bien. Anne, je te passe tout de suite la parole.
Oui, hein, d'accord.
Tu commences par quoi, alors ?
Alors, je commence par une petite pépite que j'ai trouvée à la bibliothèque de Romain Gary.
Oui.
Alors, Romain Gary n'a pas surveillé l'édition de ce livre, puisqu'il était décédé. Et on a été à la pêche d'un certain nombre de nouvelles qui ont paru dans des journaux, dans des revues, en feuilleton, entre 1933 et 1967. Donc dans ce livre qui est tout petit, hein, ça fait à peine un centimètre d'épaisseur, il y a 5 nouvelles et il y a 2 commencements de romans qui eux aussi ont été mis dans un tiroir en attendant que... Bon. Alors, que dire de ces nouvelles ? D'abord, quand j'ai feuilleté d'abord le livre en me disant « Oh là là, il y a plein de choses, je commence par quoi ?» Et en fait, elles sont toutes aussi extraordinaires les unes que les autres. C'est l'évolution de Romain Gary au fur et à mesure de ses années, soit des années avant la guerre, quand il cherchait en vain à gagner 3 francs 6 sous et il envoyait ses nouvelles aux journaux, que pendant la guerre, son expérience d'aviateur en Afrique, que après la guerre, son expérience de vieux monsieur consul à Los Angeles. Mais il y a un lien extraordinaire entre toutes ces nouvelles, c'est ce désespoir permanent de l'auteur, cette obsession du suicide et cette peur de la mort qui le poursuivait depuis ses années de jeunesse, même quand il était adolescent. Alors, donc il y a 5 nouvelles et 2 commencements de romans. La première, qui donne son nom au livre, est absolument extraordinaire. Alors, je vais vous en parler plus particulièrement parce que je l'ai relu 3 fois. Et 3 fois, j'ai été prise au cœur. C'est absolument étonnant, cette idée. Pensez que ça a été écrit dans les années 39-40. Il était tout jeune, hein, à cette époque-là. C'est impressionnant. Alors voilà, nous sommes à l'autre bout du monde, dans une île, à un moment où il y a la mousson. L'orage est en train d'arriver, il n'a pas éclaté. Dans ces pays-là, l'orage, c'est absolument épouvantable. Vous êtes transformé en eau avant que ça explose. D'ailleurs, ça explose et puis ça disparaît aussi vite. Hein. Moi, j'ai vécu à Madagascar quand j'étais enfant. À 6h, enfin 18h, ça tombait, tout le monde était trempé. À 18h10, c'était sec. On attendait le lendemain. Hein. Donc, l'orage, nous sommes donc dans cette île à l'autre bout du monde. Un seul couple de blancs, le médecin et sa femme, et 2 autres habitants à l'autre bout de l'île. Donc, le médecin est appelé chez un de ses 2 clients à l'autre bout de l'île. Il part épuisé, mais bon, il faut y aller. Il est demandé, il faut y aller. Et sa femme reste toute seule. Et elle prend la place de son mari dans la chaise longue et elle se demande pourquoi elle est là finalement. Alors je vais vous lire un passage. je trouve que c'est tellement évocateur. Écoutez bien. Pêche entra dans l'eau. Alors, pêche, c'est le nom du pêcheur. Pêche entra dans l'eau, tira le canot et l'abandonna sur le sable. En levant la tête, il aperçut le bungalow. D'après les renseignements qu'il avait recueillis auprès des indigènes de Fuji, c'était l'habitation du docteur Parthol. Il demeura indécis. Maintenant qu'il était arrivé, maintenant qu'il allait savoir, le courage lui manquait, il n'osait plus avancer. Il se tint immobile dans l'eau qui lui montait jusqu'aux chevilles et se sentit pris soudain d'une envie panique de sauter dans le canot et de s'enfuir. Pêche paraissait âgé de 40 ans. Son visage brûlé par le soleil, aux paupières rouges et enflammées, était encadré d'une barbe épaisse et noire. Il n'avait pas de casque, chose étrange pour un blanc dans ces parages, et chose plus étrange encore, ne portait aucune arme. Bâti comme un athlète, il donnait l'impression très nette de brutalité, d'impétuosité. Il respirait bruyamment. Ses yeux bleus et injectés de sang fixaient avec une expression bizarre le bungalow, où il apercevait une silhouette blanche. Il hésita encore un instant, fit un geste de retraite. Le soleil lui brûlait la tête, le cou, la chaleur montait par bouffées du sol, de la mer, tombant du ciel. Les palmeraies baignaient dans une clarté intense, blessante. Enfin, Pêche parut se décider. Il marcha lentement vers le sentier qu'il voyait devant lui et qui grimpait jusqu'au bungalow. À son passage, Wambo, dissimulé derrière un cocotier, lui lança un regard à la fois méfiant et plein de curiosité. Pêche avançait péniblement, la tête baissée et les poings serrés. Il ressemblait à un fauve qui s'apprête à livrer combat. Son visage ruisselait de sueur. Arrivé devant la véranda, il leva les yeux et soudain tressaillit. Une femme se trouvait devant lui. Une femme blanche, la première qu'il voyait depuis des années. Alors, l'histoire de l'orage, c'est donc la montée de l'inquiétude avec l'arrivée de l'orage, et cet homme qui va se trouver face à cette femme. Il n'a pas vu de femme depuis des années, et elle, écrasée par la chaleur, le renoncement devant cette vie épouvantable de deux blancs tout seuls dans une île, va lui céder. Donc ça va être un échange presque bestial. Et puis enfin, le médecin arrive. Et donc, Pêche va le consulter. Et puis, il ressort comme un taureau. Il fonce vers son bateau et il saute dedans. Il s'en va sans dire quoi que ce soit. Alors, la femme est un peu inquiète quand même de cette réaction. Donc, elle se tourne vers son mari. Elle lui dit, mais c'est curieux, d'ordinaire, ceux qui viennent s'installent pendant quelque temps pour boire un pot. Ah, il dit, oh non, mais lui, vraiment, le pauvre, oh là là, je ne voudrais pas être à sa place. Ah bon, dit-elle, qu'a-t-il? Il lui arrive quoi? Et le médecin la regarde et lui dit, je peux bien te le dire, il a la lèpre. Et ça se termine comme ça. On imagine cette femme qui, tout d'un coup, se dit, ben voilà, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Alors, c'est étonnant. Hein.
Alors, tu disais que tu l'avais relu trois fois, mais oui. c'est du côté de l'émotion.
Voilà, il y a l'émotion, et puis la dernière fois, c'est vraiment la façon d'écrire, cette montée en puissance et en désespoir en même temps. C'est vraiment, puis alors naturellement, l'orage explose au moment où il s'en va. Voilà, alors il y a d'autres choses dans ce petit livre. Il y a je retourne.
Alors, il y a combien, tu l'as dit, mais il y a combien, tu peux rappeler?
Il y a cinq nouvelles.
Il y a cinq nouvelles.
Donc, c'est un tour du monde. Oui. Il y a celle-là qui se passe à l'autre bout du monde. Il y en a une qui se passe en Indochine. Une autre pendant la guerre, quand il est stationné en Éthiopie, et il raconte les avions qui s'en vont et qui savent qu'ils ne sont pas sûrs du tout de revenir parce que les Allemands sont en Éthiopie et ont des escadrilles qui sont très performantes. Et puis on arrive à ces deux livres qu'il a commencé. L'un s'appelle « À bout de souffle ». Et dans cette... oui ?
Non, rien à voir avec le film.
Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. À bout de souffle, c'est en fait Ça se passe aux États-Unis. C'est un début de livre qui a été écrit quand il était à Los Angeles comme consul. Le décor, c'est un saloon. Et vraiment, les deux personnages qui sont dans le saloon sont vraiment en dessous du paillasson sur le plan éducation, intellect, enfin bon. Et lui, il est là il attend quelque chose. Nous ne savons pas quoi, mais lui le sait. Le deuxième chapitre de ce commencement de livre... annonce qu'il a payé quelqu'un pour le tuer. Mais il n'a pas dit à quoi il ressemblait et il ne sait pas qui viendra le tuer. Et un début de flirt se fait entre lui et la petite jeune fille qui est au bar et qui, visiblement, attend de remplir ses poches. Et en fait, elle sort, il est appelé au téléphone, il se rend dans une pièce derrière le saloon et il se trouve face à face avec celui qui doit le tuer et qui est en fait la petite jeune fille qui a été payée pour être... voilà. Alors ça, je pense que développer, ça aurait fait un très bon roman.
Oui. Hein,
bon, là, c'est... Ouais. C'est un résumé. Et alors là, je peux lire encore un peu.
Mais bien sûr.
Alors le dernier morceau de ce petit recueil s'appelle Le Grec. Ça se passe sous les colonels. C'est donc une apologie de la démocratie et de la résistance aux colonels. Et ce Grec est un plongeur. Qui a pris l'habitude d'aller cambrioler les villas des riches grecs sur la côte en passant par la mer. Et il est dévoilé par un couple d'Anglais qui passe du coup commande d'ancienneté, de statuettes, etc., qui vont piquer chez les riches grecs pour revendre. Alors, on voit passer dedans Onassis, Niarchos, enfin bon, il n'y a pas que des personnages de roman, hein. On est vraiment dedans. Et les colonels ne sont pas tendres. Hein. Alors, attendez, il faut que je me remette là. Voilà. Le balcon surplombe la mer et on foule toujours un sol frais, quelle que soit la férocité du soleil qui vous fait rôtir depuis là-haut. Les bateaux de pêche, ils appellent ça des caïques, se rassemblent tous au coucher du soleil comme des papillons rouges qui butinent. 15, 20 bateaux tenant à eux tous, à pleines dents si l'on peut dire, leur énorme filet rouillé pour attraper tous les poissons qu'ils trouvent généralement, ou Dieu sait quel en est le nom qu'on leur donne ici, des papas, des damos, ils ressemblent tous aux limandes de Baja California. Quand le soleil se couche, la mer ici devient violet sombre, puis d'un rouge éclatant, avec tous ces bateaux qui se serrent de près les uns contre les autres, leurs proues se bécotant, ils semblent picorer leur pêche. Un orage aux ailes violettes surgit de l'Asie, vient se suspendre là, tonnant, dardant des éclairs qui semblent se perdre dans le ciel. Soudain, la tomate rouge et mûre du soleil devient molle et flasque et se laisse engloutir, entraînée par son poids excessif. Il y a plus de 300 églises grecques orthodoxes sur l'île. Et c'est l'heure à laquelle on les entend chanter. Pas les églises, mais les Grecs à l'intérieur. Et comme je vois les choses, quand un tout petit endroit comme ici a besoin de 300 églises, c'est que tout ça vraiment n'est que de la rigolade. Si ça marchait bien, une seule église devrait suffire. La Grèce. C'est de là que vient la mythologie. Des rois qui n'ont jamais existé, des dieux qui n'ont créé personne et qui n'ont jamais rien fait, si ce n'est d'avoir entre eux des liens de famille les plus compliqués qui soient. Et tout ça, ce n'était que du marbre. Il restait quand même quelques cartes postales. Les guides grecs ont une façon bien à eux de vous montrer un morceau de pierre de rien du tout, comme si c'était tout ce qui restait du monde réel. Pour ce qui était de Byle, tout ça, c'était les mines du roi Salomon. Tous les Grecs que vous croisez vous diront que ce sont eux qui ont inventé la démocratie. C'est peut-être vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en ont perdu le brevet. Alors, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est une autre atmosphère, mais les descriptions sont tellement magnifiques. Mmh. Il manie les adjectifs. Enfin, c'est tout un ensemble de couleurs qui est utilisé là. Et avec cet ensemble de couleurs, il arrive à faire un tableau aussi beau qu'un Paul Klee. Et voilà, moi, je suis tout à fait fan.
ça s'entend. Mais c'est bien, il faut faire une piqûre de rappel de temps en temps.
Voilà, alors ce livre, donc, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Donc, qui voudra le lire le trouvera à la bibliothèque. Après Véro, certainement.
Oui.
C'est édité dans le livre de poche, chez Biblio, dans les Biblio-Romans.
Voilà, Romain Gary,
avec
L'Orage.
Avec une préface d'Éric Nehoff, ce qui n'est quand même pas si mal.
Est-ce que je
peux poser une petite
Mais
question.
Mais bien sûr, Alice.
Les nouvelles n'avaient pas été publiées, c'était un choix de Romain Gary, on le sait.
Les deux romans
les nouvelles...
Les nouvelles ont été publiées.
Ah, elles avaient été publiées avant d'être réunies dans ce recueil.
Voilà,
ce recueil.
Alors si vous avez par exemple... Il faut que je retrouve... La première dont je vous ai parlé, L'Orage, elle est parue dans Gringoire le 15 février 1935. Donc, en fait, la personne qui a réuni tous ces documents, l'éditeur, a été piochée dans des revues qui n'existent plus, qui sont aux archives.
D'accord.
Il y a, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure ? De quoi je t'ai parlé tout à l'heure ?
Bah, je ne sais pas, parce que tu parles tellement, Anne.
Ah bon, ça va.
À bout de souffle, c'était le roman.
Oui,
voilà.
À bout de souffle.
Géographie humaine, qui se passe en Éthiopie, a été édité dans la Marseillaise le 7 mars 1943. Voilà, alors chaque revue date une certaine date dans son parcours et dans un certain journal.
Du coup, c'est intéressant, c'est contextualisé. Donc.
Voilà, exactement. La Marseillaise, c'est à l'époque où on considérait que le salut ne pouvait venir que de l'Afrique, puisque les Allemands étaient en France. Le seul pays libre, c'était l'Éthiopie, c'était... Le Togo, enfin bon, voilà. Je disais quoi ? Par contre, les deux romans n'ont pas été édités du tout. C'était des manuscrits qui étaient dans un tiroir et qu'on a extirpé de ce tiroir. Ouais.
Non, je me pose toujours cette question parce que je me demande toujours comment réagiraient les auteurs au fait, mais c'est comme les disques posthumes, au fait qu'on ait... exhumer des textes qu'ils avaient... Alors là, en l'occurrence, ils avaient été publiés. Donc
oui.
Voilà. Mais ces débuts de romans, c'est-à-dire comment ils prendraient qu'on puisse avoir un début de travail qui, pour eux, ne
Je ne suis pas sûre qu'ils l'auraient apprécié.
Voilà.
Parce que, si je me souviens bien de ce que j'ai pu lire sur Romain Gary, c'était un perfectionniste. Et l'idée même de voir publier quelque chose qui n'avait pas été relu, corrigé...
Inabouti, j'imagine.
Voilà, abouti. Bon, ceci dit... ils sont tellement, tellement prenants qu'en soi, ça pourrait faire une nouvelle.
D'accord. Mmh.
Enfin, pas le grec, parce que le grec, ça se termine vraiment en queue de poisson. Poum, on ne sait pas la suite. Mais bon, là aussi, ça a un certain charme.
Alors, merci beaucoup, Anne. Tu embrayes sur ton deuxième choix.
Oui. Hein,
tu as un peu plus, on va dire un peu plus de 7 minutes et demie. À peu près.
J'ai pas l'intention de lire quoi que ce soit.
D'accord.
Pardon. Alors, mon deuxième choix, c'est tout à fait autre chose. C'est un livre de Éric Emmanuel Schmitt et ça s'appelle La femme au miroir. Alors, Éric Emmanuel Schmitt, c'est quelqu'un qui a un savoir encyclopédique et qui touche à tout. On a commencé par le théâtre avec Oscar et la Dame Rose. On termine là ces jours-ci avec Félix et l'Invisible qui vient de paraître, qui est en librairie. La femme au miroir, c'est tout à fait étonnant. Nous tournons autour de trois héroïnes. L'une vivait au XVIe siècle. Elle s'appelait Anne et elle vivait à Bruges. Et elle rejetait... l'idée du mariage, son rêve, c'était de se fondre dans la nature. Et parce qu'elle rejetait l'Église en même temps, non pas l'Église d'ailleurs, non pas Dieu, mais l'Église.
En tant qu'institution.
En tant que personne.
En tant que
personnel.
D'accord.
Et l'homme en tant que futur mari, elle a fini sur le bûcher. Le deuxième personnage est une bourgeoise qui épouse un aristocrate dans la Vienne de François Joseph aux alentours de 1890. Et elle est étouffée dans ce milieu collémonté, coincé, corseté qu'est l'aristocratie de cette époque, pas seulement à Vienne, mais aussi à Paris, à Londres, etc. Et elle n'a de cesse de se sortir de ce carcan qui la brise au point de provoquer chez elle une grossesse nerveuse, parce que, bien entendu, elle a épousé le fils aîné du fils aîné, et la seule chose qu'on lui demande, c'est de faire un garçon. Faire un enfant d'abord, un garçon ensuite. Mmh. Et donc, sa première manifestation, c'est je collectionne des cochonneries, parce que pendant que j'achète tout ça et que j'augmente ma collection, j'existe. Et ensuite, elle divorce parce qu'elle ne peut plus supporter. Et elle fait la connaissance de Freud et elle devient psychanalyste. La troisième, alors je termine sur cette dame qui découvre un livre qui s'appelle « Le livre de l'invisible » et qui a été écrit par la première, qui est Anne de Bruges. Et elle tombe en admiration devant ce livre, qui était l'unique livre de cette femme, et qu'elle traduit, qu'elle analyse en tant que psychanalyste, et dont elle fait un documentaire juste avant d'être tuée par les Allemands. La troisième s'appelle Annie et elle est starlette à Hollywood. C'est la starlette parfaite qui se saoule tous les soirs, qui court les jambes en l'air, qui est une femme cougar. Enfin, tout y passe, tous les clichés possibles et imaginables. Et bien entendu, elle pense au suicide parce qu'elle s'ennuie en permanence, elle ne trouve rien jusqu'au moment où on lui propose de faire un film de ce livre, le livre écrit par la baronne viennoise sur le travail de la première. Vous suivez mon fil,
oui,
donc
oui.
Les trois ânes, Anne, Anna et Annie, dans trois périodes différentes, tournant autour de ce livre et qui est en fait le livre de la rébellion face à l'homme, avec un grand H, face au manque de pouvoir des femmes. Et je trouve que c'est un livre qui correspond tout à fait à la période.
Ben, c'est ça.
Et également une rébellion face à la mort et face à ce qui se passe après la mort. J'ai adoré ce livre. Je ne suis pas très fanade des pièces de Eric Emmanuel Schmitt. Je ne rentre pas bien. Mais là, je suis vraiment rentrée dedans. J'ai trouvé que cette description de Anne, la première, qui se fond, son seul bonheur, c'est de se fondre dans le tilleul qui est devant son béguinage à Bruges. Et c'est à ce moment-là, quand elle étreint son arbre, qu'elle sent qu'elle fait partie de la nature et que plus personne ne peut lui retirer ce qu'elle a entre les bras. Et puis même la seconde aussi, elle est attendrissante. Alors je suis moins fanat de la troisième, mais enfin bon, je trouve tout de même que c'est un livre qui se tient, qui est tout à fait percutant et qui est à lire.
Oui.
Les 7 minutes et demie
Oh, bah, même moins.
Qu'est-ce que je suis bien, tout de même.
T'es dans le timing parfait.
Oh là là.
Donc, trois portraits de femmes.
Trois portraits de femmes.
Avec ce lien, tu disais, c'est cohérent, ça se tient.
Ah, tout à fait. Et ce sont trois rebelles, trois femmes autonomes,
oui,
qui cherchent leur autonomie et qui la trouvent dans un parcours intérieur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas perdantes dans la réalité. Mmh. La première est brûlée sur le bûcher. La seconde est tuée par les Allemands.
Ah oui.
La troisième, elle vit toujours. Donc, je trouve qu'il y a un parcours étonnant et très, très intéressant. Voilà. On perd pas son temps.
Merci beaucoup, Anne.
Alors, là aussi, c'est dans le livre de poche.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, Eric Emmanuel Schmitt, La femme au miroir. C'est sorti en 2011, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Hein c'est
voilà.
ça oui.
Très bien. On se retrouve tout de suite. Du vent dans les pages, sur Studio Zef. Alors Alice, merci d'être venue déjà, c'est chouette parce qu'on entend, on commence à en entendre parler de contre-champ de plus en plus. Alors je vais,
pourvu que ça se développe.
Voilà, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je vais te laisser présenter ce projet très intéressant, assez atypique.
Merci vas-y. D'abord, ça me fait tout drôle d'être là à cette heure-là. Moi, d'habitude, quand je viens, il fait nuit dans le studio.
C'est ça.
C'est toujours le soir, c'est étonnant ce créneau. Merci de m'inviter à parler en effet de ce livre. Alors, on va sortir de la littérature. C'est un livre de reportage qu'on a réalisé à deux. Avec mon collègue Cyril Chigaud qui lui est photographe, donc on s'est réparti la tâche, moi au texte, lui à la photo. Alors c'est le titre en effet c'est Contre-champ qu'on a sous-titré Les paysans reprennent la main. On s'intéresse à tous ces paysans qu'on entend rarement. Qui vivent correctement, enfin qui eux nous disent mais moi ça va, je vis bien de mon travail, regardez je crée de l'emploi, je me plains pas. En fait le projet est parti, alors on est très content d'aboutir, normalement le livre sortira en fin de semaine prochaine et c'est 3 ans de travail. Donc
oui, il faut le dire ça. Hein.
Voilà, ouais. on s'est rencontrés avec Cyril parce qu'on travaille par ailleurs ensemble en reportage. Et puis, février, début 2016, tiens, si on travaillait autour de l'agriculture. Il se trouve que moi, j'avais été un peu interpellée en allant faire un reportage sur la maison de l'agriculture paysanne à Blois, qui regroupe différentes associations paysannes, de constater, en discutant comme ça avec les membres des différentes associations, qu'il y avait des jeunes, alors jeunes ou moins jeunes, hein, mais qui s'installaient. Mmh. Alors que moi, j'entendais que l'agriculture était mal en point. Que en même temps, c'est une réalité. Hein, les terres agricoles diminuent, les paysans diminuent. On entend parler de suicides tout le temps. Ils sont pris à la gorge entre les prix qu'on leur propose qui sont ridiculement bas, leur remboursement de prêts. C'est vraiment des situations très, très compliquées. Et à côté de ça, j'entendais là, ces gens, ces administrateurs de différentes associations type ADA, Impact, la CONF, qui me disait, nous, on reçoit régulièrement des gens qui veulent s'installer. Nous, ça va. Et l'agriculture peut être source de développement rural. Donc moi, ça m'avait pas mal interpellée. Il se trouve que je suis issue du milieu agricole directement. Mon père était maraîcher en région nantaise. Donc c'est un métier qui me touche. Pour rien au monde, je le ferais parce que j'ai vu ce que c'était. Mais je crois que de couper avec ça, c'était un peu compliqué. Moi, c'est mes racines. Donc, travailler sur ce sujet, ça m'intéressait particulièrement. Cyril a des origines agricoles aussi.
Cyril, donc, ton collègue photographe.
Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, on est parti là-dessus en se disant, nous, on va aller les rencontrer. Ces paysans qui, eux, nous disent ne pas souffrir de la crise, qui ne nous parlent pas de crise, en fait.
Et c'était dans l'idée de donner une image positive ou pas forcément ? C'était un peu pour prendre le contre-pied, justement, de ce constat.
C'était le contre-pied, c'est ça. C'était dire, il y a une autre. Alors, sachant qu'on savait qu'il y avait une autre agriculture, sans l'avouer complètement, il y avait une démarche probablement un petit peu militante de notre part, de dire... il n'y a pas que le discours, alors je vais peut-être heurter quelques oreilles, mais il n'y a pas que le discours FNSEA, parce que soyons clairs, c'est une voix agricole qu'on entend énormément, qu'on entend sur toutes les ondes, et c'est à peu près la seule qu'on entend. Les autres sont beaucoup plus difficilement audibles. Donc on s'est dit, on va aller rencontrer ces paysans, et puis peut-être qu'on pourra faire entendre, montrer que ces gens qu'on dit alternatifs, parce qu'en gros, ce sont des paysans qui ne font pas partie de la majorité, peut-être qu'ils pourront nous dire, une autre agriculture est possible, peut-être qu'ils pourraient montrer une autre voie. Alors on n'a pas de compétences agronomiques, on n'a pas de compétences agricoles, on a juste nos compétences de reporter, chacun dans notre spécialité. Mais on s'est dit, en allant voir ces gens-là, peut-être qu'on peut montrer qu'il y a autre chose et pas seulement le discours majoritaire qu'on entend.
Alors, le contact s'est fait comment, justement, avec tous ces paysans ?
C'est là qu'on les remercie. D'ailleurs, c'est les premières personnes qu'on remercie dans le livre. Parce que, alors, c'est des contacts, bon, la région Centre-Val-de-Loire. C'est à l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire parce que bah, c'est nos territoires, nous, d'implantation. Hein, donc, on s'est limité à ce territoire-là. C'est un petit monde, donc très vite dans les milieux de l'agriculture alternative, on nous a donné des noms, donc via l'ADR, donc Association départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural, pardon, tout ce qui est impact. Alors là, toutes les significations des acronymes vont m'échapper forcément.
On nous a donné des noms
et après, eux nous en donnaient d'autres. Et quand je disais que c'est les premiers qu'on a remerciés, c'est que c'est des gens qu'on est quand même allé voir en disant « Bonjour, on vient faire un reportage, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas dans quelle finalité, mais est-ce que vous voulez bien nous raconter votre parcours ?» Et tous, ils ont accepté.
Oui.
On a eu très peu de refus. Moi, dans tous les contacts que j'ai pris, j'ai eu vaguement un refus. Puis encore, je pense que c'était des gens, c'était faute de disponibilité. Et donc, les premiers qu'on a rencontrés en 2016, c'est qu'aujourd'hui, le résultat. Donc, on ne savait pas où on allait. On ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas si on les vendrait à la découpe, comme on dit, dans des magazines, si on ferait une expo. On n'osait pas parler de livres parce que ça nous semblait complètement prétentieux. On n'avait pas du tout cette optique-là. Donc, c'était super voilà, qu'ils acceptent. En fait, c'est des gens qui, au-delà d'être paysans, ont envie de transmettre quelque chose.
Ouais.
Et leur passion. Et encore, comme je disais, ce n'est pas des gens qu'on entend souvent. Quand on les entend, je l'ai encore vu récemment en regardant le 28 minutes ou quand on entend des émissions à la radio, la contradiction est souvent bien plus forte qu'eux. Donc, c'est très compliqué à eux de se faire entendre. Donc, je pense qu'ils sont militants dans leur façon de travailler. Et ils ont envie de raconter ce qu'ils font.
Alors ça, c'est pour le contenu. Maintenant, comme on est dans une émission qui parle de littérature et de livres, le livre s'est imposé rapidement, l'idée du livre s'est imposée rapidement. Ton travail de rédaction, ça a consisté concrètement à quoi ? À recueillir justement tous ces témoignages ?
Je dirais que le livre s'est imposé quand moi j'ai commencé à rédiger.
Oui.
Parce que on ne rédige pas pareil selon qu'on va écrire des textes pour une exposition, pour un article ou pour un ouvrage au long cours. Moi, je suis partie, je suis souvent, comme de nombreux pigistes, limitée par le nombre de signes, etc. Et là, je me suis dit, oups, je peux me faire plaisir. Y a une revue que j'aime beaucoup qui est 180 degrés. Ou 12,5 degrés pour la partie plutôt viticole. Et c'est vraiment du reportage au long cours. Et moi, je me suis inspirée de ça, de me dire, j'ai la place, je prends le temps de raconter. Et donc, petit à petit, il s'est avéré qu'on était plus sur un format livre. Alors, le mot livre a été long à sortir, enfin, à avouer. Parce que c'est vrai que c'est ultra prétentieux de dire, on va écrire un livre.
C'est plus un recueil de témoignages ?
C'est du reportage. C'est du reportage, c'est vraiment... c'est pas du recueil de témoignages parce que... Alors moi, j'ai une écriture journalistique, j'ai pas du tout une écriture littéraire, ni beau livre ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une compilation de reportages avec... On a 12 portraits de paysans, mais on n'a pas voulu se limiter, justement, au recueil des témoignages. Ce qui nous a intéressé, c'était de voir comment, en fait, il y a une chaîne qui se met en place. Ces paysans, s'ils travaillaient tout seuls dans leur coin... Peut-être qu'ils s'en sortiraient, mais ce serait compliqué parce qu'il faut faire chacun les marchés, etc. Et en fait, ils construisent une chaîne qui est complètement alternative à l'industrie, à l'univers agroalimentaire, agro-industriel. Et on alterne ces portraits avec des focus qui reprennent depuis la formation, parce qu'on se rend compte que quand même la formation évolue dans les lycées agricoles, jusqu'à la distribution. On s'est intéressé à des paysans qui ont créé une filière de distribution. Alors, ils ne parlent pas de filière, mais un groupement qui transforme les céréales en pâte. D'autres qui ont créé un magasin de producteurs. D'autres qui ont créé qui rassemble Valbio Centre, qui est situé à Blois, qui réunit les légumes des maraîchers bio de la région Centre-Val-de-Loire, légumes et fruits, et qui les distribue sous forme de panier. Enfin, voilà.
Les paniers, oui.
Voilà. Et donc, on a voulu voir comment il y a une filière qui se structure plutôt que juste compiler des portraits. Et puis, parti dans notre lancée, on s'est dit, allez, voyons un peu plus haut. On a aussi quelques pages chiffrées qui permettent un peu d'avoir un recul sur l'évolution de l'agriculture des 50 dernières années, sur la différence agriculture bio, agriculture conventionnelle. Et puis, là où on était très contents, c'est qu'on a eu l'interview de Jacques Capla, qui est quelqu'un qui a écrit des livres sur l'agriculture bio, qui est un militant de l'agriculture biologique, et notamment qui a écrit un livre qui s'appelle « L'agriculture biologique sauvera le monde » aux éditions Actes Sud, et qui nous a accordé une interview. Et donc là, c'est très, très intéressant pour... on voulait aussi sortir de l'échelle de la région Centre-Val-de-Loire, ouais. C'est-à-dire prendre un petit peu de hauteur.
Oui, ça vous pose un petit peu vis-à-vis des lecteurs.
Exactement. Donc, allez voir un peu.
Je peux poser une question ?
Bien sûr.
Deux questions. La première, c'est quel est l'impact des médias sur une vision fausse, finalement, que vous avez l'air de dire à propos de la FNSEA et de ce que vous avez ressenti. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce que vous n'avez pas peur que le monde paysan qui vous répond n'agisse pas comme font les Bretons, c'est-à-dire le front des armoires est brillant, et puis derrière, on empaquette tout ce qu'on ne veut pas montrer aux gens.
Alors, sur la première question, l'impact des médias, moi, je l'ai juste constaté. Très récemment, je regardais le 28 minutes, il y avait un agriculteur qui est engagé dans une démarche d'agriculture paysanne, un petit peu comme celle qu'on est allé voir. Et il y avait autour de la table deux autres invités, dont une qui quand même avait un regard assez étonnant sur le glyphosate, en disant qu'il n'y a qu'une étude, soi-disant, qui montrerait la nocivité du produit. Et en fait, l'émission, et pourtant, Dieu sait que je l'aime bien cette émission, mais l'interview s'est terminée, il n'a pas pu avoir de droit de réponse. Et il était, on a senti de la colère, on a senti de la frustration. Voilà, mais parce qu'il avait quand même autour de la table une personne limite qui défendait le glyphosate, et Sylvie Brunel qui avait un discours quand même... Alors, ambigu. Avec qui je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, voilà, sur l'agriculture, qui avait quand même un discours très conventionnel, très dominant. Et donc, lui seul était là, essayait de défendre.
Donc, ce n'était pas le but de le mettre en valeur.
Ça posait la question quand même de sa place dans le débat. On m'a, dans les anecdotes que m'ont rapporté justement des paysans qu'on a rencontrés, une émission sur, ça devait être à l'occasion d'un des salons de l'agriculture, je ne sais plus lequel, une émission autour de l'agriculture, un paysan téléphone en disant qu'il n'a que 15 ou 16 vaches. Et je crois que c'était un ministre qui était là. Et ils ne l'ont pas cru. C'est-à-dire que, en fait, ça paraissait. Ils ont cru que c'était quelqu'un qui bluffait. Il n'était pas crédible. Or, nous, on a rencontré un jeune paysan qui a 15 vaches et qui s'en sort. Donc, c'est quand même, au niveau des médias, on sent que c'est compliqué. Je suis absolument. Je veux opposer à la théorie du grand complot. Donc, voilà. Moi, simplement, c'est les choses que je constate. Mmh. Et depuis 3 ans que je travaille sur le sujet, où je me dis. C'est pas facile dans les médias de grande écoute.
Oui. La sensation qu'on a finalement. Enfin, moi, je n'y connais strictement rien, mais la sensation qu'on a en écoutant les interviews, c'est mon Dieu, nous allons à la catastrophe. Il n'y a plus de paysans et le pauvre paysan qui reste pense au suicide chaque fois qu'il se lève le matin. Le pire, c'est qu'il y a des suicides, donc ça.
C'est une situation
réelle.
C'est
le côté pratique qui s'ajoute à la théorie. Et en même temps, je suis pyrénéenne, l'agriculture de montagne, ça marche très bien. Les agneaux sont très, très demandés. On est heureux avec peu. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les médias ne sont pas orientés ?
Oui, alors ça, c'est un autre débat qu'on ne va pas avoir là.
C'est une
vraie question. Alors, on ne pourra pas
être aussi conscient
là.
Que la majorité des journalistes sont parisiens, que quand ils sortent du périph', c'est l'exotisme, et que l'agriculture, ça fait longtemps qu'ils savent plus ce que c'est. Donc, ils écoutent aussi un petit peu ce qu'on leur dit, je pense.
Mais c'est pour ça que je te demandais, Alice, si votre travail, c'était pas aussi prendre le contre-pied par rapport à tout ce discours dominant, qui veut aussi... C'est vrai qu'on entend aussi, par exemple, que...
Misérable.
divisé.
La petite exploitation ne va pas nourrir la population. J'imagine que...
C'est les questions qu'on a posées.
Voilà,
bien sûr.
Exactement.
Et c'est la question de la reterritorialisation de l'alimentation qui se pose. Et en ça, l'interview de Jacques Capla est très, très intéressante. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer les règles du jeu. Le problème, c'est que les règles du jeu, elles sont comme ça depuis 50 ans.
Oui.
Pour les changer, il faudrait déjà prendre conscience qu'il y a autre chose, qu'autre chose est possible. Et puis, encore une fois, sans tomber dans la théorie du grand complot, soyons honnêtes, les lobbies sont extrêmement importants. L'industrie agrochimique, ce sont des... Alors, je ne saurais pas dire, mais c'est des tas d'emplois. Donc, c'est sûr que ça pose question. L'agriculture ne créera jamais autant d'emplois qu'en crée l'industrie agrochimique. Donc, détruire l'industrie agrochimique, c'est perte d'emploi. Et aujourd'hui, l'équation, c'est celle-ci, quoi. Il faut créer de l'emploi. Donc c'est, bien sûr, ça pose ces questions-là. Mais selon... On le voit, les agriculteurs, nous, dont on parle, disent qu'un autre système est possible. Et selon Jacques Capla, c'était aussi ce qui nous intéressait, parce que c'est possible à grande échelle. Et juste pour revenir sur votre question, Anne, les paysans nous ont montré toutes les phases. C'est-à-dire que c'est le reproche qu'on m'a fait la première fois qu'on a montré l'exposition. Oui, enfin, c'est une vision jolie de l'agriculture, mais en vrai, c'est pas comme ça. Certes, les photos ont plus vocation à valoriser le métier de paysan qui a en montré la difficulté, mais ils nous ont raconté leurs difficultés. Et de façon très claire. Et on a une arboricultrice qui nous explique qu'elle avait créé deux emplois, elle a dû en licencier un, parce qu'elle passe son temps à tester, à recommencer, à se planter, à frôler le burn-out. Un autre couple qui s'est installé et qui nous dit, voilà, on a galéré parce que le toit de la ferme s'est envolé ou le toit de je ne sais plus quoi, il venait de le refaire, il s'est envolé lors d'une tempête. Après, c'était un autre tunnel qui s'est envolé aussi. Oui, il y a des galères. Mais tous nous disent, pour rien au monde, on changerait. Et on a ce jeune Vincent qu'on aime beaucoup, qui est à Saint-Martin-des-Bois, dans le nord du Loir-et-Cher, qui s'est installé avec 15 vaches. Il venait d'un milieu conventionnel, donc famille pas hyper motivée pour son projet, qui a galéré, qui nous a dit, mais par moment, j'avais envie d'abandonner, parce que j'étais tout seul à me battre contre des institutions qui ne croyaient pas en mon projet.
Ouais.
Mais aujourd'hui encore, c'est difficile pour lui.
Alice, est-ce que pour la conception de ce livre, vous avez pensé à quoi au départ au niveau édition ?
Alors,
voilà. Est-ce que vous êtes allé frapper à des portes ?
Alors, on a frappé à quelque part. Il se trouve que je suis un petit peu têtue, que j'aime bien...
C'est bien dans le
milieu. C'est une qualité.
Et que j'aime bien avoir la maîtrise des choses. Donc moi, très vite, j'étais partie en me disant « ce serait bien qu'on auto-édite ». Voilà, comme ça, on reste maître de notre projet jusqu'au bout. Voilà. Bon, après, être édité par une maison d'édition, c'était aussi une forme de reconnaissance. Quand même. Et puis bon, c'était s'enlever un sacré paquet de toute la fabrication du livre. Donc on a cherché, on a démarché quelques maisons d'édition et ça n'a pas fonctionné. Ni l'un ni l'autre, on ne connaissait ce domaine, enfin ce milieu. Donc on n'était pas vraiment armés, on ne savait pas trop à qui s'adresser. Il se trouve qu'en fait, il aurait fallu qu'on ait un soutien financier pour qu'un éditeur ose se lancer sur un tel projet.
Un soutien financier privé ou public, peu importe.
D'une institution. Probablement. Voilà, c'est ça. Et donc on a eu quelques refus. On ne connaissait aussi pas suffisamment de maisons d'édition. Alors des refus qui nous disaient ça nous intéresse, mais on a déjà fait, ça nous intéresse, mais on ne fait pas la photo ou c'est pas dans notre ligne éditoriale. Bon, voilà. Donc, je dois avouer que si on a fait 5 ou 6 lettres, c'est un grand maximum, ce qui est très peu pour envoyer un...
Mon premier livre, j'en ai fait 19.
Non, mais voilà, c'est pour ça. J'avoue qu'on ne s'y est pas forcément bien pris. Donc moi, avec mon côté têtu, j'aime bien maîtriser les choses de A à Z. Je me disais en même temps, moi, maîtriser le bébé jusqu'au bout, ça m'irait bien. Je voudrais bien... On voulait qu'il ait de l'allure, ce livre.
Oui.
On avait une...
Je comprends.
Voilà, on savait où on voulait aller. Donc en fait on s'est lancé, c'est un projet inconscient, hein. Enfin je veux dire voilà, s'il y a 3 ans on s'était dit que ce serait tout ça, je suis pas sûre qu'on l'aurait fait, mais voilà. Et donc on est parti tout seul et on auto-édite, on a monté une association qui s'appelle 6 pieds sur terre, qui a vocation justement, on espère qu'on fera d'autres reportages, et c'est 6 pieds sur terre qui porte l'édition. Et on a travaillé avec quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Frédéric Chailleux, qui est à Blois et qui a son temps de travail qui n'est pas forcément le même que le nôtre, mais qu'on adore vraiment. Oui, il nous a fait un super, super boulot. Et puis, on a eu la chance d'avoir le soutien de la région Centre.
Oui.
Ça, c'est très important.
Voilà.
Vous avez une subvention de la région. C'est...
On a une subvention sans que la région ne demande à lire le manuscrit. Hein.
Ah oui.
Oui, oui, non, vraiment, c'est un soutien.
Totale confiance. Quoi.
En totale confiance. Mmh. Et ça, c'est énorme.
Et une belle préface.
Ah oui.
Ça, c'est important.
En plus, on est très content parce que Philippe Bertrand, donc journaliste, producteur à France Inter, le fameux animateur et producteur des carnets de campagne, a accepté très rapidement de préfacer l'ouvrage.
Ça, c'est chouette.
Donc, voilà. Et juste, par rapport au financement, parce que je pense qu'on arrive au bout. Voilà, ce qui nous a permis de faire le livre, c'est donc ce soutien de la région Centre qui n'est vraiment pas négligeable et c'est énorme. Et puis, une campagne de financement participatif qu'on a fait sur KissKissBankBank. C'était même pas du financement participatif, en fait, c'était de la prévente. Mm-hmm. Et c'est grâce aux ouvrages prévendus, on en a prévendu 388 pour être tout à fait précis, qu'on peut lancer l'édition, sinon on n'aurait pas pu le faire.
Bien sûr.
Tu rappelles le nom de votre ouvrage ?
Contre-champ, les paysans reprennent la main. Donc à la photo, Cyril Chigaud, donc au texte moi-même, à la préface, Philippe Bertrand. Et puis, donc ça sortira semaine prochaine. Voilà. Et puis, je tiens à dire qu'on tenait aussi à imprimer localement chez un imprimeur de qualité.
Très important.
On imprime chez Rollin, à Blois.
Très bien. Merci beaucoup Alice.
Merci
on mettra tout ça de toute façon sur la page du vent dans les pages. On va faire une petite pause musicale et on enchaîne justement avec une de tes chroniques Alice, mais qui date de 2017. À tout à l'heure.
Mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, nada más aquí junto a mi cruz, solo quiero paz, ay, ay, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después, ay, 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 solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. La viva cupira, la cupa pica, la rumba, la popa, pica, rupi, ira,
Nous allons parler plein emploi aujourd'hui avec un tout petit livre, une note de la Fondation Copernic intitulée « Le plein emploi, c'est possible », sous-titré « Éléments pour une politique de gauche » et c'est paru aux éditions Sileps. Alors avant tout, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Avec un slogan qui dit « Pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers », la Fondation Copernic n'est pas vraiment positionnée à droite. On lui doit la structuration du mouvement pour le non au traité constitutionnel européen, des campagnes contre la réforme des retraites, contre le logement cher ou pour les droits des homosexuels. Dans cette note de 70 pages, donc, la Fondation Copernic met en avant les ratés des multiples réformes mises en place par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, censés avoir créé de l'emploi. Et elle propose quelques pistes de réflexion pour tendre vers le plein emploi. D'abord, la note pointe l'absurdité des allègements de charges sociales qui seraient l'arme magique de la réduction du chômage, selon une équation ultra simple, moins un salarié coûte cher, plus l'entreprise en emploi. Selon une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi, le COE, étude parue en 2013, les allègements de cotisations sociales auraient permis la création de rien de moins que 800 000 emplois. Sauf que la Cour des comptes ne valide pas tout à fait ces chiffres. En 2006 et 2009, elle critiquait déjà les rapports du COE en demandant, je cite, « que des travaux fondés sur des outils de simulation adaptés voient le jour rapidement sur un sujet aussi important ». Et puis le souci, c'est que plus les salaires sont bas, plus les exonérations sont importantes. Bilan des courses, alléger les salaires crée peut-être de l'emploi, mais de l'emploi précaire et mal payé. Premier point. Ensuite, il s'avère que l'allègement du coût du travail ne rapporte pas tant aux salariés qu'aux actionnaires. La note montre clairement que quand les cotisations sur les salaires diminuent, la part des dividendes augmente. De la même manière, alors que les allègements de cotisations sociales sont censés aider les entreprises à investir, et donc à créer de l'emploi, la courbe de l'investissement ne progresse pas comme elle le devrait. Résultat, l'État dépense des milliards d'euros pour aider les entreprises à créer de l'emploi qui ne voient pas le jour. Or, pour financer ces milliards, l'État gratte partout, notamment dans les budgets des collectivités locales, lesquelles, du coup, rognent sur la masse salariale et sur les projets d'investissement, soit au total, moins d'emplois publics et des entreprises locales en grande difficulté faute de marché public. Vu comme ça, c'est sûr qu'on peut s'interroger quelque peu sur l'efficacité des aides publiques en matière d'emploi. Enfin, la Fondation Copernic bat en brèche les affirmations comme quoi plus on flexibilise le marché de l'emploi, plus le taux d'emploi est élevé. Elle cite l'OCDE et le FMI qui émettent de sérieux doutes sur le rapport entre flexibilité et création d'emplois. Il y a même une étude qui explique clairement que, je cite, « les tentatives de lutter contre le chômage par la déréglementation pourraient être futiles ». Alors bon, c'est bien joli de critiquer, mais qu'est-ce qu'elle propose la Fondation Copernic pour tenter d'atteindre le plein emploi ? Sans surprise, de cesser la politique d'austérité. Parce que c'est sûr que c'est pas en baissant les dépenses publiques de 70 milliards d'euros pour respecter le fameux déficit budgétaire de 3% et de 50 milliards d'euros pour financer les programmes d'aide aux entreprises que l'État va pouvoir relancer l'investissement et créer de l'emploi. Pourtant, le secteur des énergies renouvelables pourrait visiblement être un formidable levier de développement économique. Et tiens, comme c'est curieux, la Fondation Copernic rejoint là l'économiste Gaël Giraud. Alors, autre idée, la semaine de 32 heures payée 35 pour rééquilibrer la part des salaires dans la valeur ajoutée. Alors là, soyons honnêtes, je ne suis pas certaine que les PME puissent suivre. Cela dit, la note envisage une loi de solidarité des grands groupes capitalistes envers les petites entreprises. L'idée, en fait, ce serait de regrouper toutes les cotisations dans une caisse commune appelée Caisse de solidarité du travail, qui viendrait en aide aux TPE pour assurer la continuité des salaires et des droits sociaux dans les périodes de non-emploi. Alors, plus radical, la Fondation Copernic propose de taxer la distribution des profits non réinvestis pour encourager en fait, les entreprises à investir plutôt qu'à faire exploser leurs placements financiers et puis la part de leurs dividendes dans le PIB. Et puis, elle propose aussi de réorienter le crédit bancaire aux entreprises vers des investissements qui répondraient à des critères écologiques et sociaux. Bref, des idées qui sont pas si farfelues que ça, et puis qui mériteraient peut-être d'être débattues à l'occasion des campagnes à venir, pourquoi pas. D'ailleurs, allez savoir, à force de les entendre dans la bouche des économistes hétérodoxes, peut-être qu'elles vont finir par se faire une place dans le débat public, ces idées. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je vous conseille la lecture de ce petit ouvrage, ça s'appelle donc « Le plein emploi, c'est possible », dans la collection Les notes de la Fondation Copernic, aux éditions Sileps.
Eh bien voilà, tu as encore sévi, plein emploi. Hein.
Plein emploi. Ouais,
plein emploi.
Voilà,
c'était des chroniques que tu faisais donc dans Du vent dans les pages,
oui.
Hein, l'année dernière.
Mais que j'espère bien reprendre. J'ai
avec plaisir.
J'ai eu un petit peu quelques livres à écrire en même temps. Là. J'en ai deux qui sortent en mars, ça faisait un peu beaucoup.
Voilà, t'avais trop de boulot, on te comprend.
Voilà, fait. Mais on parlera de croissance prochainement.
Ah, très bien. Très
bien,
c'est pas mal.
Votre prochain livre, ma chère.
Eh ben, moi, je voulais juste, avant de terminer cette émission, faire une petite place aux femmes. Ah bah oui, parce que une fois par an, au mois de mars, on est à l'honneur, mesdames. C'est dingue. Hein.
Profitons-en.
Ouais. Enfin bon.
Oui, et en même temps, c'est tellement.
Ouais. On va pas débattre maintenant. Hein, là-dessus, voilà. Donc, je voulais parler d'un petit recueil de dessins de presse qui s'appelle Place aux femmes. Alors, c'est sorti chez Gallimard en 2017. C'est 60 dessins de presse avec une préface d'Elisabeth Badinter. Donc, ce sont des dessins sélectionnés par Cartooning for Peace. Alors, Cartooning for Peace, juste un petit mot là-dessus, c'est une fondation qui est née en 2006. C'est une, en Suisse d'abord. Hein, voilà, Dessin pour la paix, créé à Genève, avec Kofi Annan comme président d'honneur.
C'est pas Jean Plantu qui est à l'origine ?
Alors, oui, ouais. Mais il est à l'origine, surtout pour Cartooning for Peace, France.
Ah, d'accord.
Voilà.
Ça existait avant.
Voilà, ça existait avant. Il était aussi il est sur le coup, si je puis dire, depuis les années 90. Hein. Bien sûr, c'est un dessinateur de presse de longue date. Voilà, donc il était déjà dans les tiroirs, quoi. Voilà, donc 2 ans plus tard, en effet, en 2008, l'association française voit le jour à Paris. Et l'équipe de Cartooning for Peace est hébergée dans les locaux du journal Le Monde, où travaille justement Plantu, président de la fondation et de l'association Cartooning for Peace. Voilà. Ça coûte 10 euros. Les droits d'auteur du livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs de presse menacés. Alors, bien sûr, celui-ci est un peu spécifique, puisqu'on y trouve, puisque ça dresse un état des lieux, un triste état des lieux international des inégalités et des violences que peuvent subir les femmes en matière d'éducation, de sexualité, de travail ou de religion. Évidemment, en feuilletant ce livre, vous découvrez des dessinatrices et dessinateurs de Tunisie, d'Iran, du Burkina Faso, de Russie ou encore du Japon. On sait que le pouvoir du dessin de presse est énorme et on sait aussi que les censeurs de tout poil le savent très bien et ont compris tout ça et déploient toute leur imagination répressive pour faire taire les crayons. Donc faites un geste salutaire. Je vous invite aussi à regarder, bien sûr, à découvrir les autres thématiques.
Très, très belle association.
C'est une très belle association.
Ils font un super boulot.
Exactement, ils font un boulot extraordinaire. Je mettrai tout ça sur la page du Vent dans les pages. C'est vraiment à découvrir.
Ils avaient exposé d'ailleurs au rendez-vous de l'histoire.
Exactement.
Là, 2018.
Alors, ils avaient exposé et l'année d'avant, je crois, dans mon souvenir, il y avait eu une conférence avec quelques dessinateurs. Malheureusement, tous n'ont pas pu venir et pour cause. Je me souviens, le dessinateur Jules était au dessin en direct
pendant la
conférence.
Pendant la conférence.
C'était absolument génial.
Oui, ça, c'est toujours génial.
Ouais, hein. Ouais, c'était vraiment très génial. Ça rendait vivant et bouleversant aussi. Oui. En même temps, voilà, ce sont des dessins humoristiques, hein, faut quand même le dire. C'est bien sûr de l'humour noir. Et ça, faut vraiment prendre conscience que leurs vies sont menacées. Hein, c'est terrible dans certains.
Oui, c'est...
Bah, il suffit de se rappeler juste de Charlie Hebdo pour se rendre compte que c'est pas si loin que ça et qu'il y a des gens qui vivent ça au quotidien.
Complètement. Eh bien, mesdames, il me reste à vous remercier chaleureusement pour cette présentation. Merci Alice d'être venue.
Merci à toi.
Le mois prochain, eh bien, on retrouve Catherine, puis Anne aussi. Hein, tu reviens, hein ?
Bien sûr.
Ah bon ?
Surtout le 1er avril, je ne veux pas rater ça.
Ah oui, c'est vrai, c'est le 1er avril. À la bonne blague. Bon, merci à tous et à toutes. Je rappelle que cette émission est en podcast sur studiozef.fr. À bientôt à la radio.